Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Nous venons de vivre un week-end particulier, celui de la Pentecôte. Pour certains, cela a été l'occasion de se déplacer, de visiter la famille, les amis ou faire du tourisme. Hélas, sur les routes de l'Hexagone, le bilan est souvent catastrophique. De nombreux blessés, gravement atteints, et des morts tragiques, parfois simplement dues à de l'imprudence. Nous compatissons avec tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés. Ce jour, je veux porter le focus sur l'événement rapporté par les Écritures dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Deux faits marquants y sont mis en lumière. Puis, tout le livre en illustre la conséquence, c'est-à-dire la suite logique. D'abord, soulignons l'accomplissement de la promesse. Cette promesse a été rappelée par Jésus à ses disciples peu avant son départ pour la gloire, le jour de l'ascension. Je lis Actes chapitre 1 verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Jésus a confié à ses disciples une mission d'envergure, très importante. Je cite « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » La tâche est immense, mais cependant nécessite une qualification particulière, un revêtement de puissance. « Ce que je vous ai annoncé, précise Jésus, ce que le Père avait promis. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Bien-aimé, il vaut la peine de croire Dieu sur parole, en quelque sorte de le prendre au mot. Ses promesses sont nombreuses. Certaines sont soumises à conditions telles, je cite, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». La lecture suivie et quotidienne des Écritures pour les recenser est un exercice stimulant pour la foi. Le jour de la Pentecôte démontre la fidélité de Dieu à l'égard de sa parole. Oui, le Seigneur a accompli sa promesse. Comme toujours, alléluia. Et ce qui est formidable, c'est que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes concernés. Car ce jour-là, en fin de discours, l'apôtre Pierre a dit, je cite, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La promesse est pour les auditeurs directs de Pierre, pour leurs enfants, nés ou à naître, et pour tous ceux qui sont au loin, dans l'espace et dans le temps, puisque, en conclusion, elle concerne tous ceux que le Seigneur appellera. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes aussi du nombre de ceux que le Seigneur a appelés à son salut, puisque nous sommes les destinataires de l'Évangile. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, je cite, « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. » Le jour de la Pentecôte, nous avons simplement la manifestation de ce que Jésus a dit lors du grand jour de la fête. Je cite, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 7, verset 38. Oui, ceux qui croient en Jésus doivent recevoir l'Esprit. Croire en Jésus, comme dit l'Écriture, cela signifie croire en lui selon le témoignage que les Écritures nous en donnent. Jean-Baptiste, envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, nous met au clair en deux phrases. Et ces choses se sont produites à Béthanie, à l'est du Jourdain où Jean baptisait. Voyant Jésus s'approcher de lui, Jean-Baptiste a dit, je cite, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Croire en Jésus, c'est croire à son sacrifice, croire qu'il est mort pour nos péchés, les miens en particulier, et aussi les tiens bien-aimés. Jean-Baptiste a donné la précision suivante, je cite, « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Croire en Jésus, comme dit l'Écriture, c'est aussi croire qu'il est, en plus de l'agneau de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples, au nombre d'environ 120, étaient dans cette attente. Alors je lis chapitre 2, versets 1 à 4. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme leur esprit leur donnait de s'exprimer. La promesse était, « Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Maintenant il est dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Pierre, quant à lui, déclare, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ces trois expressions définissent la même chose. Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Lorsque Pierre se trouve dans la maison du centenier romain, nommé Corneille, ses conceptions sont bousculées. Le Seigneur lui a déjà tiré l'oreille pour élargir sa notion du prochain et l'amener jusque dans cette maison. Et là, Pierre découvre que Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie, mais pas que. Car alors qu'il délivre à Corneille et à tous ceux qui sont réunis le message du salut, voici que Pierre et ceux qui l'ont accompagné, tous croyants circoncis, sont stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit est déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendent parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Actes chapitre 10, verset 45. De retour à Jérusalem, subissant des reproches de la part de quelques « entre guillemets puristes », Pierre a expliqué comment le Seigneur l'a amené dans la maison de Corneille et ce qui est arrivé. Je le cite, « Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. » Actes chapitre 11, verset 15. Nous écoutons une page musicale.
Je l'avais promis, tout est accompli, nos cœurs sont remplis de son bon esprit. Dans la chambre haute, le de feu leur apparut. Soudain, il fut rempli du Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit.
Dieu l'avait promis, tout est accompli, nos cœurs sont son bon esprit.
L'affection de
Le fait marquant de la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute et la manifestation qui en a suivi. Je cite à nouveau le texte, Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour sûr, cela a fait du bruit, au point de faire accourir une foule nombreuse de Juifs pieux, venus pour la fête, des quatre coins du monde connu. Stupéfaction totale pour eux d'entendre ces gens sans instruction s'exprimer ainsi dans leurs diverses langues maternelles et de plus, raconter de cette manière les merveilles de Dieu. De nos jours, dans certaines conférences internationales, il y a possibilité de disposer de matériel permettant à ceux qui ne connaissent pas la langue de l'orateur, grâce à des traducteurs installés en régie, de suivre et de comprendre ce qui est dit. Le jour de la Pentecôte, rien de tout cela, bien au contraire. C'est une manifestation surnaturelle qui s'est produite. Le miracle est dans le fait que ces gens sans instruction s'exprimaient dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Le miracle est, entre guillemets, au départ, et non à l'arrivée du message. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les diverses langues sont ici une expression surnaturelle par le Saint-Esprit. Le deuxième fait marquant le jour de la Pentecôte est le discours de Pierre. Il s'est présenté à la foule avec les 11 autres apôtres et d'une voix forte leur a dit, je cite, « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je susciterai des phénomènes extraordinaires, en haut dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur, et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Et Pierre poursuit son discours en sollicitant l'attention de la foule. Je cite, « Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Mon corps lui-même reposera dans l'espérance, car, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment que l'un de ses descendants lui succéderait comme roi. David a vu d'avance ce qui allait arriver. Il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous. Et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. L'Écriture ne fait mention d'aucune protestation suite aux doigts pointés de Pierre. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Personne n'a présenté d'alibi, déclarant ne pas être concerné par ces événements, car présent à Jérusalem depuis quelques jours seulement. Au contraire, l'Écriture déclare, je cite, « Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Réponse de Pierre, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre a encore prononcé d'autres paroles et a encouragé la foule par ces mots, je cite, « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» Résultat, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Nous écoutons une nouvelle page musicale.
Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi. À la croix, à la croix, chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour
effacer mes péchés, Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi. À la croix, chaque épine.
Le jour de la Pentecôte, suite au discours de Pierre, environ 3000 personnes ont cru en Jésus, leur cœur ayant été vivement touché. Et ils ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, selon les instructions données par Jésus. L'Église annoncée venait de naître, un temps nouveau commençait, avec la garantie de la présence de Jésus à leur côté, comme il le leur a promis. Je cite Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je cite aussi Marc chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Saint-Esprit est tout à la fois le remplaçant de Jésus et sa présence, tel, entre guillemets, un autre lui-même. Bien-aimé, nous croyons en un Dieu unique qui s'est révélé en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme une unité composée. Cela dépasse notre entendement. Créés à l'image, à son image, notre être aussi est une unité composée, esprit, âme et corps. Dans sa condition de Fils de l'homme, Jésus était astreint aux mêmes limitations que tout autre humain. À maintes reprises, il a dit à ses disciples, « Allons ailleurs dans les villages voisins, je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Il ne pouvait se trouver au même moment à Capernaum et à Jéricho, en Galilée et en Judée. Or, en tout lieu, il y avait de grands besoins. Maintenant, par le Saint-Esprit, Jésus est présent en tout lieu. Je cite la promesse rapportée dans Matthieu chapitre 18, verset 20. « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La conséquence de la Pentecôte, c'est-à-dire la suite logique, nous la trouvons tout au long du livre des Actes des Apôtres. Une dynamique nouvelle, puissante et glorieuse, se manifeste, que ce soit lorsque le peuple se réjouit à la vue des miracles ou lorsque les persécutions se font perfides et meurtrières. Il y a bien, entre guillemets, un avant et un après la Pentecôte dans la vie des apôtres. Transformé, Pierre a renié son maître face à une simple servante parce que pris de crainte et désemparé. Cependant, il avait vu des choses extraordinaires aux côtés de Jésus. Deux tempêtes apaisées, deux fois les pains multipliés, la résurrection de la fille de Jaïrus, de Lazare, et que dire de la transfiguration? Pierre écrira, je cite, « C'est de nos propres yeux que nous avons vu la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Malgré cela, présumant de ses forces, Pierre a renié. Maintenant, point de crainte malgré les menaces et la prison. Face au tribunal religieux, il est plein d'assurance. Précision, il est écrit, je lis Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, les apôtres ont compris l'importance d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que Pierre et Jean sont venus de Jérusalem comme suite au travail d'évangélisation de Philippe parmi les Samaritains. Ils sont venus prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur ont imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes, qui toutefois peuvent se vivre simultanément. Même attitude de l'apôtre Paul lorsqu'il rencontre à Éphèse quelques disciples. Il leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Leur réponse « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Étonnement de Paul qui leur demande « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Réponse « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Certains chrétiens nous disent, je cite, « Nous vivons, entre guillemets, 1 Corinthiens 13, plutôt que les chapitres 12 et 14. Nous préférons l'amour à la prophétie et aux autres manifestations du Saint-Esprit. » C'est un faux débat, car dans les trois chapitres susmentionnés, l'apôtre traite d'un seul sujet, les dons du Saint-Esprit. Il n'oppose pas les dons et l'amour, mais souligne toute la différence entre les dons exercés avec amour et les dons exercés sans amour. On nous rétorque aussi, je cite, « tel, entre guillemets, pentecôtiste, mène une vie de patachon. Ce n'est pas cela la vie chrétienne. » En effet, une vie dissolue est le contraire de la vie chrétienne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne au chapitre 6 un terrible avertissement à ceux qui ont été éclairés et qui ont eu part au don du Saint-Esprit. Leur responsabilité est plus grande et le parler en langue n'est pas un brevet de sainteté. De même que l'on distingue baptême d'eau et baptême de l'Esprit, il faut distinguer fruit et don du Saint-Esprit. Tout croyant qui a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur, qui de ce fait est, entre guillemets, né de nouveau, a reçu l'esprit d'adoption qui lui permet d'appeler Dieu son Père. Je lis Romains chapitre 8, verset 15, Bible du Semeur. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Le fruit de l'esprit traduit la vie de Christ en nous, son caractère, sa sainteté, au point de lui ressembler de plus en plus. Un chrétien est comme Christ. Je termine en lisant Luc chapitre 11, versets 11 à 13, Bible français courant. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien, lui donnera-t-il un scorpion s'il lui demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Donc le Père céleste qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Oui, le Père céleste donne le Saint-Esprit promis à ceux qui le lui demandent. Amen.